Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée au Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Benoît FX et ce matin je suis accompagné de Kurt. Salut Kurt.
Salut Benoît FX.
Tu vas bien ?
Bien et toi ?
Pas trop fatigué encore ?
Non, ça va.
Après ce troisième jour, enfin pour entamer ce troisième jour.
Non, encore un peu sous le pied.
Et ce matin nous avons le plaisir d'accueillir Alexia Munoz et Olivier Merli.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous, vous allez bien ?
Ça va, ouais.
Oui.
Et vous venez nous parler un peu du fonds patrimonial du jeu de société.
Oui, tout à fait. On a un stand ici sur le festival.
C'est la première fois.
C'est la deuxième fois. Ouais. Okay. Deuxième fois.
On va en reparler. Il n'y a pas de souci. Mais avant ça, on va faire notre petit fil rouge qu'on fait à tous nos invités.
D'accord.
L'idée, ça va être de nommer vos propres as d'or dans des catégories un petit peu farfelues. Enfin, farfelues. Pas tellement, mais pas les catégories officielles en tout cas. Donc, c'est vos as d'or personnels et c'est pas forcément des jeux de cette année. Vous pouvez piocher dans tout ce que vous voulez.
Alors. Pour vous, quel est l'as d'or du jeu pour rire avec les potes ?
Just One. J'aime beaucoup Just One.
Pareil.
Just One, pour les deux. Très bien. Pour vous, quel est l'as d'or qui vous a fait le plus fumer le cerveau ? Du jeu qui vous a fait le plus fumer le cerveau ?
Je dirais Challenger. Je crois que c'était celui-là qui...
Challenger ?
Ouais.
Wow. Je suis pas très très gros jeu, donc assez rapidement, ça me fait assez rapidement fumer le cerveau. Dès qu'il y a un peu de niveau, c'est du mal.
Quel est l'as d'or du jeu auquel vous ne voulez plus jamais rejouer ?
Ricochet Robot.
Oui, ça marche bien. Bah, ça fait fumer le cerveau aussi.
Art moderne, c'est un jeu, je crois que ça a été très très long cette partie. J'ai rarement plus envie de jouer à un jeu en plein milieu de la partie, mais alors celui-là, ça a été terrible.
Le jeu d'enchères de Knizia.
Ouais.
Quel est votre as d'or du jeu auquel vous pensez encore 3 jours après avoir fini la partie ?
Donjons et chatons.
Oh, mais tellement. C'est génial. Donjons et chatons, définitivement.
Quel est l'as d'or du jeu le plus moche ?
Skyjo. Désolé, hein. Skyjo, c'est pas
J'ai pas d'idée. Plus moche. Non, j'ai pas.
Pas de soucis, c'est très bien.
C'était tout pour le petit fil rouge. Du coup, est-ce que maintenant vous pouvez vous présenter un petit peu plus en détail, déjà personnellement, un petit peu, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et nous parler un petit peu plus du fonds patrimonial, sachant que le fonds patrimonial, on avait fait une interview assez longue en 2022, on était
tout à fait
les locaux du fonds, c'était super, c'était incroyable, enfin, expérience pour nous magique avec toutes ces boîtes de jeux. Mais à l'époque, vous étiez dans une phase aussi beaucoup d'inventaire. Il y avait encore beaucoup de choses en carton, qui n'étaient pas encore classifiées. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous d'abord et après du fond ?
Ok. Donc, moi, je suis Alexia Munoz. Je suis chargée de communication au Centre ludique de Boulogne-Billancourt, qui avant s'est appelé le CNJ. Centre National du Jeu, et qui avant s'appelait la Ludothèque de Boulogne. Donc on est une ludothèque, donc on a 2 salles de jeu. On organise le concours international des créateurs de jeux de société, tous les ans, le concours de Boulogne. Et puis, et donc jusqu'en 2020, nous avions chez nous à Boulogne la collection, ce qu'on appelait le conservatoire du jeu, qui était une collection qui a été créée en 1980 et qui a donc été enrichie au fur et à mesure des années par la personne qui avait créé la ludothèque CMJ, qui était Marine Granger.
Voilà, et puis moi je suis Olivier, donc je suis bibliothécaire au Fonds patrimonial du jeu de société, anciennement le CNJ, qui aujourd'hui donc est à l'Université Sorbonne Paris Nord. Et donc voilà, bah, moi je suis le gardien du temple, je dirais, à l'intérieur du fond, directement sur la collection. Là, je travaille directement avec Annie Siang, que vous aviez rencontré quand vous étiez venu, voilà, tout à fait. Et je travaille directement tous les jours au quotidien sur la collection dont on va parler.
Très bien. Alors, donc, vous nous avez présenté rapidement le fonds patrimonial. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est sa mission ?
Alors, la mission, elle est au moins double. La première, c'est un fonds patrimonial du jeu de société. Donc, l'idée, c'est de conserver les objets pour en conserver à la fois la matérialité et la mémoire. Ça, c'est un des premiers aspects. Et le deuxième, c'est la recherche. C'est vraiment faire en sorte que ce fonds soit ouvert le plus largement possible aux chercheuses, aux chercheurs et aux professionnels pour pouvoir creuser tous les sujets possibles autour du jeu.
Du coup, combien de jeux et d'archives est-ce que vous avez j'imagine que vous avez un inventaire assez précis. Vous en êtes à combien de jeux aujourd'hui et quelle évolution depuis qu'on est venu vous voir en 2022? J'imagine qu'il y en a encore plus.
Alors, l'inventaire assez précis, je mettrai un petit bémol. Il y a un inventaire. De là à dire qu'il est précis, c'est comme dans toute bibliothèque ou dans toute archive, il y a pas mal de retard. Ça, c'est une base.
Décalage.
Voilà. Mais aujourd'hui, notre estimation, c'est plutôt aux alentours de 17 000 jeux. Donc quand vous étiez venu, il y avait la collection initiale, ce qu'on appelle la collection initiale. Juste pour mémoire, donc c'était la collection qui avait été constituée historiquement par le CNJ à partir du fonds propre de la ludothèque, enrichi dans les années 2000 par le fonds White Hill, le fonds américain White Hill, de Bruce White Hill, donc un collectionneur américain.
Qui avait été acquis effectivement par la ludothèque à ce moment-là.
Voilà. Et le fonds Casus Belli, première génération, donc tous les jeux de rôle des années 80 à 2000 en gros.
Le fonds initial, c'était environ 12 000 jeux, voilà. 1840 à nos jours.
Et aux alentours de 4 500 ou 5 000 éléments de jeux de rôle, voilà, pour compléter. Et aujourd'hui, on est tous au courant pour que Trictrac a disparu, enfin en tout cas a changé de forme. Donc l'équipe historique de Trictrac nous ont gentiment confié leurs jeux. Donc ça fait quand même un apport énorme et donc aujourd'hui on est à peu près à 17 000 jeux et aux alentours de 5 à 6 000 éléments de jeux de rôle parce que par exemple les éditions des 12 singes nous ont donné toute leur production. Voilà, c'était un don d'éditeur pour la conservation. Ils ont été séduits par l'idée d'intégrer le fonds patrimonial, voilà, à des fins de recherche. Merci à eux d'ailleurs.
Est-ce que dans votre collection, il y a des pièces particulièrement rares ou précieuses ? Alors précieuses, ça peut être, je vous laisse imaginer, la multiplicité des termes précieuses.
Oui, bien sûr. On a énormément de pièces qui sont pour la recherche, donc déjà qui sont précieuses parce que c'est des témoins du début de l'industrie du jeu. Alors juste, on n'a pas de très vieux échiquiers du XVIe siècle, voilà. Hein. Vraiment, la collection, elle est centrée sur l'industrie, je dirais. Voilà, sur l'industrie. Donc,
réalisation du jeu.
Voilà, de la fin du XIXe, enfin milieu du XIXe. Donc, parmi les jeux anciens, on a des jeux, notamment de jeux de cartes de 1840-1845, donc qui sont précieux déjà parce que ce sont des témoins de leur époque. Ça c'est juste pour mémoire, on a un jeu, alors un peu une espèce de jeu de plateau qui servait surtout pour jouer aux cartes, je pense, de la guerre de sécession, avec des graffitis de soldats derrière. Donc ça c'est. Puis on a pas mal de jeux. Là on a un facsimilé d'ailleurs d'un jeu des années 40 français avec la représentation de Pétain dessus. Voilà, donc ça c'est des jeux qui ont une valeur pour la recherche. Après en termes de jeux précieux, je dirais qu'il y a bien des Donjons et Dragons, des premières éditions.
Qui sont un peu rares.
Qui sont un peu rares, voilà, et qui peuvent...
D'autant plus qu'ils ont le
tampon Casus Belli. Donc ils ont une double valeur patrimoniale. Ils témoignent de deux institutions, quoi, à la fois Donjons, à la fois Casus.
Et du coup, est-ce qu'il y a des mesures particulières de conservation de ces vieux jeux ? Parce que, effectivement, nous, quand on est venu à l'époque, c'était encore l'inventaire, donc tout était encore dans des caisses, il y avait eu le transfert des caisses, des cartons. J'imagine que vous avez commencé à les sortir, à les classer, les ranger. Est-ce que, du coup, pour ces jeux très anciens, ou pour. Est-ce que. Comment sont conservés ces jeux ? Comment sont classifiés ces jeux, triés
Alors, quand vous êtes venu, moi j'étais pas présent ce jour-là, mais de mémoire, il y avait des cartons un peu partout, voilà.
Caisse plastique des cartons.
Voilà, exactement. Donc, alors on a continué à développer. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas idéal, hein, mais le rangement par caisse plastique.
À cause des travaux.
À cause des travaux, parce que voilà, le lieu qui accueille la collection a connu une longue période de travaux. On en sort depuis 3 semaines à peu près. Donc voilà, à partir de maintenant, on va vraiment changer de format pour tout ranger. Ça c'est dans l'idée, on veut sortir les jeux des caisses dans un local vraiment adapté. Là, il y a en termes d'hydrothermie, etc. Tout ça. Bon, bien sûr, les règles sont respectées, mais c'est pas idéal en termes de classement et notamment d'usage pour les chercheurs. Les caisses, c'est pas très pratique, voilà pour. Pour fouiller dans les jeux, voilà.
Ils sont au fond.
Voilà, exactement. Voilà. Donc l'idée, ça sera de trouver un mobilier plus adapté, et donc à ce moment-là de modifier notre classement. Et puis le façon la première, le premier, première tâche qui est face à nous, c'est vraiment d'intégrer tous les jeux dans la base de données consultable à distance par tout le monde. Voilà.
Oui, il y aura une base de données du coup vers le public.
C'est l'idée, oui.
Ouais, c'est l'idée.
C'est l'inventaire des jeux.
Voilà.
À ma mort, je voudrais que ma collection rejoigne votre fonds. Alors, comment ça se passe, les acquisitions et les donations ?
Bienvenue.
Les acquisitions, alors, on a commencé à quelques acquisitions à titre onéreux, comme on dit en bibliothèque. L'essentiel, c'est par le don. Mmh. Il suffit juste de signer une convention de don, voilà. Qui fait qu'officiellement, on intègre un don de particulier, c'est déjà arrivé plusieurs fois, dans notre collection.
Nous, du coup, au club, en fait, chaque année, on fait une sorte de désherbage dans notre ludothèque, dans la salle de jeu. Et donc, chaque année, on sort peut-être environ une centaine de jeux pour que des nouveaux puissent venir. Mmh. Et à ce moment-là, voilà, on a un système de brocante. On fait une brocante pour le public. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une grande partie des jeux qui vont partir au FPJS. Ouais. Tout ce qui ne sera déjà pas au FPJS, normalement, devrait pouvoir intégrer la collection. Et puis après, oui, en fait, là, en ce moment, justement, sur le festival, on fait le tour un peu des éditeurs pour essayer de les sensibiliser à ce travail-là, au fait de continuer à alimenter la collection, parce qu'en fait, aujourd'hui, la collection, donc, avec le fonds Trick Track, elle s'est arrêtée à peu près à 2022. Mmh. Et en fait, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop un trou. Donc on puisse continuer à l'alimenter, et là notre travail sur le FIJ, c'est aussi d'aller voir les éditeurs et leur dire si vous voulez, vous pouvez faire un dépôt volontaire. Donc c'est encore des choses à mettre en place, parce qu'on ne sait pas encore trop si on va voir directement avec les distributeurs, directement avec les éditeurs, surtout que d'un éditeur à l'autre ça change complètement. Mais on va aller voir pour leur reparler de la collection, sachant que souvent ils en ont déjà entendu parler il y a quelques années, et d'ailleurs on a des très bons accueils, parce qu'en fait, les gens se demandent ce que devient cette collection. Donc les éditeurs, pour l'instant, sont vraiment très ouverts à cette idée de pouvoir alimenter la collection avec leurs sorties, avec leurs nouveaux jeux. Et puis, donc c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place pour continuer à avoir la production d'aujourd'hui, en fait.
Oui, parce que c'est ce qui se fait dans le livre, dans la BD.
Avec le dépôt légal, en fait.
C'est le dépôt légal, ouais.
Oui, mais est-ce que le but, l'objectif, ce serait pas. Est-ce que vous ne viseriez pas ça, en fait, d'avoir une base de données.
Exhaustive.
Ouais. Non, mais pas exhaustive, mettons à partir d'aujourd'hui, tout ce qui
d'avoir
sort.
Ouais. Légal pour les jeux.
Au moins en France.
Il y a deux logiques, en fait. C'est-à-dire que du point de vue patrimonial, l'idéal, ça serait le principe d'un dépôt légal. On accueille tous les jeux qui sortent. On tend vers la complétude chaque année. Ça, pour l'aspect patrimonial, ça serait l'idéal. En termes d'espace, ça pose quelques questions, hein, parce que le jeu de société, c'est pas le livre.
Ouais.
En termes de volume, c'est pas les mêmes. Et puis après, pour la recherche, c'est une autre approche. En fait, il nous faut vraiment un panel représentatif tous les ans. Donc, en absorbant la moitié de la production, on a quelque chose de représentatif. Voilà, que ça soit les succès d'estime, les prix, les échecs critiques. et les échecs commerciaux, tout est intéressant pour les chercheuses et les chercheurs, mais on n'a pas besoin de tout avoir. Voilà. Donc là, on est dans un entre-deux. Et c'est vrai que la seule institution qui, a priori, a vocation à accueillir un dépôt
légal,
ça serait la BNF, mais qui ont déjà refusé il y a plusieurs années. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, le fonds patrimonial du jeu de société, pour l'instant, fait
office,
c'est ça en fait, hein, fait vraiment office de dépôt légal.
Sachant qu'effectivement, cette question du dépôt légal, c'était vraiment ce qu'avait Marine Granger, oui, quand elle a créé cette collection, aidée de Michel Deprade. Ils ont énormément travaillé pendant une trentaine d'années, plus de 30 ans d'ailleurs, sur cette collection. Et c'était vraiment ce qu'elle avait en tête. C'était sa volonté initiale, c'est de qu'il y ait ce dépôt légal. Il n'existe pas légalement. Après, je sais que. Il me semble que.
Bon, dans quelques pays,
c'est vrai.
Ouais, ouais. En Finlande, notamment. Alors après, ils sont dans une autre problématique, c'est-à-dire qu'ils ont posé le principe d'un dépôt légal du jeu de société, mais ils n'ont pas de collection préalable. Alors que nous, on a la collection. Et il y aurait peut-être... Bon, après, ça dépasse complètement le cadre du simple, oui, de la simple collection, mais en tout cas, il y a déjà une pierre à l'édifice, s'il y a besoin de construire l'édifice.
Oui, après, ça pourrait être un dépôt légal à minima des règles en version numérique, ce qui prend... Enfin, pour le stockage, je comprends que les boîtes de jeux, ça prend énormément de place, mais c'est déjà...
Le numérique pose des questions aussi. Hein.
Oui.
Et après, en fait... Finalement, les règles, uniquement les règles, sans le matériel, du coup, on...
Oui, dans l'aspect recherche, c'est mon
voilà.
Même si le matériel est normalement listé dans les règles, on est d'accord que c'est pas la même chose.
Oui, ouais. Mais ouais. Voilà. Puis ne serait-ce que comment les choses sont faites, ouais. Enfin les matériaux, ouais. Les choses comme ça. Sur le stand, par exemple, il y a des facs assimilés. L'équipe, en fait, a refabriqué certains anciens jeux. C'est vraiment hyper bien fait. J'étais impressionné par le travail qui a été fait.
Ils ont super bien travaillé. Ouais. C'est Annie Siang et Nicolas Spineros du laboratoire Experis de l'université.
Et du Fab Lab.
Du Fab Lab, ouais. Qui ont fait ça.
C'est super intéressant. C'est un aspect, du coup, de votre mission. Parce que, effectivement, des vieux jeux, on parlait de la conservation, des choses qui sont peut-être délicates, qui sont très abîmées, très anciennes, qu'il faut manipuler avec précaution. Du coup, le fait de faire des facsimilés, donc des reconstitutions à l'identique, mais neuves, des jeux d'époque, c'est une vocation qu'a le fonds patrimonial aussi. Ou ça, là, c'est plus pour...
On peut pas parler de vocation, mais par contre, c'est un des outils qu'on peut utiliser pour transmettre le plus largement possible l'accès à ce type de jeu, parce que on va pas les sortir des caisses pour les faire jouer. Typiquement, un jeu de... Là, on a amené un facsimilé d'un jeu de 1870. On peut pas le ramener physiquement.
Et ce qui est assez génial, c'est que finalement, là par exemple, avec les imprimantes 3D,
oui.
Il est possible de refaire, enfin je pense au jeu...
Alors, à Button,
exactement,
oui.
Où c'est des petites pièces en bois, initialement. Bon, on va peut-être pas s'amuser à usiner les pièces en bois, mais avec une imprimante 3D, en fait, ils ont pu refaire vraiment cette impression de jeu, et ça, c'est possible de le faire. Et ce sera génial, surtout sur les festivals ou sur tout ce qu'on va pouvoir faire à l'extérieur.
Et ça, c'est pour le grand public, mais c'est vrai que pour les chercheuses et les chercheurs, l'idéal, c'est d'avoir accès à l'objet lui-même, parce que là, en termes de matérialité, ça n'a rien à voir.
Oui.
C'est pas du tout le même objet au fond. C'est-à-dire que c'est.
Il y a une époque où l'utilisation du métal était beaucoup plus aussi fréquent.
Voilà, le bois.
Le bois.
Ah, ouais. Ouais. Et donc, Alexia, tu disais, le plus vieux jeu de la collection, c'est à peu près quelle date, quelle époque ?
1845.
Alors, je sais plus exactement ce que c'était ce jeu.
C'est un jeu de cartes.
D'accord. Ouais.
Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur le travail des chercheurs et des historiens ?
Alors, des historiens, des chercheurs largement, parce que je dirais que au sein d'Experis, en fait, donc le laboratoire des sciences du jeu, les chercheurs et les étudiants qui les accompagnent, notamment un master, ont mené des travaux collectifs, notamment sur la question du genre dans le jeu de société, des représentations, sur les jeux hybrides aussi. Plus précisément, Vincent Berry et Annie Siang ont mené un travail de recherche sur l'autorialité du jeu dans le jeu de société. si on remontait très très loin, début du siècle, voilà, sur est-ce qu'il y a une mention ou non de l'auteur ou d'autrice dans le jeu, quand le jeu est proposé. On a accueilli il n'y a pas si longtemps une chercheuse australienne qui travaille sur les jeux hybrides d'ailleurs. Et depuis largement, on reçoit souvent des demandes de consultation, là récemment sur le jeu de rôle, pour accéder au fonds Casus Belli.
Et du coup, j'imagine qu'il y a des jeux que vous avez en multiples exemplaires. Est-ce que vous savez quel jeu vous avez en le plus d'exemplaires d'un même jeu ? À part forcément la même édition. Hein, mais...
Alors, pas de la même édition. Bon, là, forcément, tout ce qui est Monopoly,
ouais.
Cluedo.
Une très belle collection de Monopoly. On avait fait une mini-exposition dessus.
Ouais. On en a vraiment beaucoup.
Il y a quelques années.
Oui, mais ça peut être intéressant de voir l'évolution du Monopoly au travers les matériaux. Est-ce qu'il y a eu des changements de règles ? Tout ça, c'est... Ouais,
ouais, et puis les représentations.
Vraiment,
oui. D'un point de vue graphique, les évolutions graphiques.
Ouais, c'est ça.
Sont des époques, quoi.
Mais je dirais, c'est les jeux à gros tirage de chez Milton Bradley ou Parker, qui sont les plus représentés.
Ok, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu du coup ce que vous venez faire au FIGE ? Vous m'avez dit au début, vous avez un stand. Donc, vous venez faire un peu de sensibilisation, de montrer un petit peu, retracer un peu l'histoire du jeu auprès du public. Quel est votre but en venant au FIGE avec un stand ?
Ben, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de rappeler l'existence du fonds, parce que c'est vrai que vu qu'il a été en sommeil pendant un certain temps avec un autre nom en plus, voilà, il faut
suivre réaliser. L'histoire.
Voilà. Donc là, déjà, voilà, c'est rappeler que ce fonds patrimonial existe, qu'il est ouvert à la recherche, où est-ce qu'il se situe, et puis voilà, donner quelques représentations, notamment via les facsimilés. Et ensuite, rappeler que sur le campus de Villetaneuse, donc Université Sorbonne Paris Nord, le laboratoire Experis anime des formations en master des sciences du jeu. Et prochainement, peut-être, si j'ai bien compris, en septembre, une licence pro jeu de société.
Voilà. Et donc, comme je disais, effectivement, faire un peu le tour aussi du milieu professionnel et des éditeurs pour les sensibiliser justement comme ça à la continuation de
la collection,
de la
préservation du patrimoine.
Ouais.
Alors, selon vous, quels jeux ont eu le plus d'impact sur l'histoire du jeu moderne ? Et au passage, est-ce que vous voulez dire un mot que pour vous est le jeu moderne ? Quand est-ce que ça commence, ce genre de choses ?
Est-ce que justement dans la collection on voit une rupture, ou est-ce qu'il y a un moment où la production explose, ou voilà, il y a un truc qui se démocratise, qui se diversifie?
Alors je suis pas le mieux placé pour en parler, Vincent Berry on parlerait bien mieux en tant que sociologue du jeu, mais l'industrie forcément, de toute façon c'est presque dans le terme, l'industrialisation est accompagnée d'une massification du jeu et notamment des usages autour du jeu. Donc, il doit y avoir plusieurs phases, mais je dirais que dans les années 60 et jusqu'aux années 80, vraisemblablement, il y a eu une progression du jeu de société dans la société française, en tout cas.
Dans mon souvenir, il y avait effectivement beaucoup, beaucoup de jeux années 80-90,
hein, aussi,
qu'on avait mis tout ça en carton.
Ouais.
Quand c'est parti de Boulogne, c'est une petite histoire, ça. On avait tout mis en carton en 15 jours. Tout en carton, tout en palette, il y a toute l'équipe.
Plus de 10 000 jeux.
Et donc toute l'équipe en fait prenait des tours pour aller faire des cartons. Et c'était un moment absolument génial, puisque donc on les prenait sur les étagères. On voyait ces gens, on disait waouh, il fallait les remettre en carton. Mais regardez,
c'est difficile, c'est vrai.
On a trouvé des trucs incroyables.
Quand on manipule le jeu, c'est vrai qu'on s'en rend compte, avec Annie. On ne touche pas, enfin, on prend le jeu, on intègre les éléments théoriques, le titre, les auteurs, etc. On le range. On manipule juste de manière voilà, utilitaire, mais en fait, on n'a jamais joué aucun jeu de la collection.
Aucun.
Aucun. Non, directement aucun. Il y a des jeux qu'on connaît, mais voilà.
D'ailleurs, est-ce que vous avez un petit. Alors, en y ayant joué ou non, est-ce que vous avez un petit chouchou dans la collection ? Est-ce qu'il y a un jeu où vous dites ça peut être purement esthétique, ça peut être un rapport spécial à ce jeu-là, ou ça peut être juste celui-là, on est content qu'il soit dans la collection. un ou plusieurs, un peu.
Moi, c'est complètement personnel, mais retrouver les jeux auxquels j'ai pu jouer
enfant.
Dans les années 90, enfant, quand j'allais prendre des jeux à la ludothèque, c'est.
Il y a toujours un petit.
Ouais, c'est ça, chose. Ça fait le petit. Oh ou alors le Secret Girls. Enfin, c'est ce truc incroyable que j'avais eu chez moi, mais de savoir qu'en fait, il fait partie d'une collection patrimoniale.
Et on l'a mis en l'honneur dans une expo.
Oui, c'est ça, oui.
On a fait une expo sur les jeux, soi-disant pour les filles, où on a abordé justement la question du genre dans le jeu société, comment il est traité, comment il a été maltraité.
J'avais voulu faire don du mien à la collection. Ils m'ont dit non, c'est bon, on l'a déjà. Je suis bon, moi, je garde.
Et pour moi, en amoureux du jeu de rôle, et frustré dans les années 80 parce que je vivais en zone rurale, je dirais que avoir accès au fond Cassus, c'est incroyable. Tous les jeux des années 80, je peux les parcourir au moins, voilà. Et le jeu, pour moi, un des jeux fondamentaux qui a vraiment changé beaucoup de choses, c'est Donjons et Dragons. Ça, c'est on le retrouve aussi bien dans le jeu vidéo que dans des mécaniques de jeux de société.
Une première édition, du coup, ça fait un petit quelque chose quand même.
Ouais.
Il y a eu une exposition d'ailleurs sur Donjons et Dragons l'an dernier.
Oui, pour les 50 ans, on avait mis Donjons et Dragons à l'honneur, ouais. Et le jeu de rôle plus largement, mais là c'était vraiment centré sur Donjons. Et donc pendant 6 mois, on a proposé une exposition la plus large possible de représentation autour de Donjons et Dragons. On a décliné toutes les gammes. Et les étudiants qui sont plus jeunes ont découvert avec grand intérêt le fond.
Eux, ils connaissent ça. Il y a eu quelque chose cette année en plus avec le film.
Oui,
du coup, ça a eu une petite résonance.
Et puis, il y a eu vraiment une résonance en plus plus locale sur le campus parce qu'on a accueilli un colloque de 2 jours dédié au jeu de rôle. Pour les 50 ans. Et en parallèle, était organisé un salon d'éditeurs, un tout petit salon d'éditeurs sur le campus. Donc ça a permis aux étudiants et aux étudiantes de découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas vraiment, parce que Villetaneuse, c'est la banlieue éloignée, on va dire, du centre de Paris.
On parlait tout à l'heure des expositions. En fait, c'est aussi quelque chose qui fait vivre la collection aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme effectivement, elle n'est pas consultable encore vraiment, en attendant, il y a vraiment des expositions qui sont mises en place, notamment pas mal à Villetaneuse.
Oui, avec la BU. Des expositions, du coup, c'est aussi quelque chose que vous proposez. C'est quelque chose qui a eu lieu où, donc, sur place à Villetaneuse.
Ouais, sur le campus.
Est-ce qu'on peut vous contacter si vous organisez une exposition quelque part sur un festival ou sur ce genre de choses? Est-ce que vous faites aussi ce genre de...
Du prêt de jeu, hein.
Ouais, du prêt de jeu ou de l'organisation, enfin de rémunéré, hein, mais de l'organisation d'exposition avec une sélection où on vous demande on aimerait faire une exposition sur une thématique spécifique ou quoi, vous avez le fond, est-ce que c'est des choses que vous...
Oui, ça arrive, alors c'est marginal, ouais, on va dire, mais oui ça arrivait d'ailleurs sur le salon ici,
ça, ouais.
Voilà, exactement. Il y a une exposition, alors je me rappelle plus comment s'appelle l'espace, un espace d'exposition à l'entrée.
Espace d'exposition,
oui. Je crois que c'est ça.
Fil, en fait.
Oui, c'est la tente officielle du Fil, ouais.
Voilà.
À l'extérieur. Ouais.
Et il y a donc une exposition sur le jeu de rôle pour les 50 ans, et le fonds patrimonial a prêté quelques jeux, de la première période, on va dire.
Ok. On a parlé de vos coups de cœur. Est-ce que, à contrario, des coups de gueule, c'est peut-être un peu large, des jeux où quand vous voyez ça, des trucs totalement what the fuck, où vous dites non, ça de nos jours, ça pourrait plus du tout sortir, ou quoi, des jeux vraiment, vraiment presque gênants en fait.
Le jeu Trump. Trump le jeu qu'on avait amené il y a 2 ans.
Ouais, Trump the game, je pense que. Mais après, on n'y a pas joué.
Non. Non, mais parce qu'il faut, pas trop manipuler les jeux, donc faut les protéger.
Oui. Ouais, c'est ça.
Non, c'est patrimonial.
Non, après, non, des coups de gueule sur les jeux, non. Je pense qu'ils témoignent tous. Si jamais, de toute façon, s'ils ne sont pas réédités, c'est qu'il y a quelque chose qui
a une raison.
Qui ne peut pas reprendre aujourd'hui, voilà, qui fonctionnait à un moment, qui ne peut pas reprendre aujourd'hui. Et même des fois, sur des jeux qui fonctionnent aujourd'hui, ils ont changé leur format. Je pense que si un industriel veut s'adresser le plus largement à un public aujourd'hui, mettons pour. je pense à certains jeux MB des années 80, tous les enfants étaient blonds, voilà. Donc en termes de représentation, il y a des choses qui sont un peu choquantes aujourd'hui quand on regarde.
Mais ils témoignent tous d'une évolution, d'un moment. On parlait tout à l'heure du jeu de 1942.
Oui.
Sur le
jeu Farine, Farinette
sur Pétain, et là il est sur le stand, et voilà, on n'a pas très envie de jouer à ce jeu, mais effectivement il témoigne tellement d'une époque que c'est on peut pas avoir de coup de gueule vraiment, puisque
mais
ils ont tous une importance en
bien sûr.
Mais après, en termes de réédition, là, il y a des règles, un game design qui est un petit peu archaïque, voilà, qui peut pas fonctionner aujourd'hui. Voilà, ça c'est plus les représentations des fois. Il y a un mastermind des années 70 avec un homme assis avec un gros cigare, une femme asiatique, les épaules dévêtues. Ça aujourd'hui, c'est un petit peu choquant.
Sur un mastermind en plus, quoi. Quel est le rapport, quoi.
Quel est l'intérêt?
Et alors, vous avez dit que vous ne jouez pas tellement au jeu, mais vous n'avez même pas un petit peu envie des fois le midi sur la pause déj en chocolat.
Alors, pour le coup, moi je travaille au centre ludique, donc voilà. Donc, déjà, grâce à ça, on n'a pas trop. Et puis, nous, c'est vrai qu'on joue le midi aussi, le boulot. Donc.
Nous, sur le campus de Villetaneuse, non.
C'est studieux.
Ouais, voilà, c'est plus.
C'est sérieux.
Voilà. Je pense que le directeur de la bibliothèque le prendrait pas très très bien si nous voyons de jouer.
Et donc, vous nous parliez de jeux que vous reproduisez en facsimilé pour les présenter, etc. Et dans ce cadre-là, est-ce que justement, pour vous, il y a des jeux oubliés qui mériteraient d'être réédités, mais industriellement?
Ah, certainement, mais alors là je n'ai pas en tête, mais certainement oui. Ça c'est de toute façon sur 17 000 jeux, il y a des pépites oubliées, voilà.
Ça marche.
Écoutez, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander si vous voulez rajouter quelque chose, donc si vous avez un mot à dire ou quoi que ce soit.
On arrive vers la fin de l'interview, donc si vous vouliez préciser quelque chose, rajouter, passer un message, dire coucou à quelqu'un, c'est le plus de vos livres.
Bon, on salue toute l'équipe déjà du FPJS et du club, voilà.
Ouais, du coup aussi, voilà. Je voulais aussi remercier Marine Granger et Michel Deprat qui ont eu cette idée et qui ont initié ça. Et c'est vrai que ça fait plaisir en fait de voir que aujourd'hui, elle peut être étudiée, elle peut servir justement à la recherche et aux professionnels. Et c'est vrai qu'on a parlé pas mal de la recherche, mais il y a aussi vraiment aussi les professionnels qui pourront consulter et travailler sur la collection. Et en plus, en fait, ce qui est important aussi, c'est encore le message que j'essaie de faire passer, mais l'idée aujourd'hui aussi, c'est qu'elle perdure et qu'on s'arrête pas là, et qu'en fait, que dans 30 ans, évidemment plus. Je vois déjà à 30, c'est déjà pas mal. Et dans 30 ans, en fait, que des gens puissent étudier la production actuelle.
Et du coup, si je résume, donc professionnels ou chercheurs, ils peuvent vous contacter, avoir accès à la collection. Et côté public, il y aura bientôt un inventaire en ligne qu'on pourra consulter. Et puis,
Oui, et en plus, alors il y a eu l'an dernier les étudiants du master sciences du jeu qui ont fait une vidéo.
Oui, tout à fait, qui est sur YouTube.
Sur YouTube.
On mettra le lien aussi.
Voilà. Et elle est sur les jeux de 1950 à nos jours.
Tout à fait, sur une recherche qui a été menée, c'est une recherche collective qui a été menée accompagnée par leurs enseignants. Et donc, c'est très très chouette.
Et ça montre un petit peu justement ce qui se trouve dans la collection, alors vraiment sur cette période 1950 à nos jours. Mais du coup, voilà, ça donne un peu une idée et un aperçu de ce qui existe dans la collection, et aussi de ce qui peut être fait. Toute cette partie recherche, en fait, à quoi ça sert? Parce que c'est vrai que, à part avoir des très beaux jeux et une quantité incroyable de jeux, oui, il y a vraiment un travail qui peut être fait à partir de ça.
Dans le billet, on remettra aussi le petit album photo qu'on avait fait en 2022, quand on était venu.
Oui.
On avait pris quelques photos de l'état à l'époque de la collection. Ça a dû vraiment évoluer depuis, je pense.
Pas tant que ça.
Les travaux ont quand même mis un frein à tout développement pendant. Mais là, c'est bon, là, maintenant, ça y est, c'est fait.
C'est parti.
Ouais.
Merci beaucoup d'être.
Merci à vous.
Merci pour l'accueil.
De nous avoir accordé du temps.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt, et surtout,
jouez bien.